Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Arélaté, on connaît, on est venu plusieurs fois, mais cette fois-ci, nous avons la chance d'être reçus par les deux hôtesses de la bibliothèque, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle cet endroit.
Centre de documentation.
Du centre de documentation qui se trouve à l'étage, et on va nous expliquer dans un instant comment on peut, nous, public, y accéder facilement. Et donc, je me trouve en face des deux personnes, elles vont expliquer toutes les deux quel est leur rôle, comment elles sont arrivées ici à Arles, qui anime, qui collecte, qui entretiennent tout le matériau qu'il y a ici. Alors d'abord, je m'adresse à Aliénor Talagrand, je dis bien ?
Oui, tout à fait, c'est parfait.
Alors, quel est votre titre exact ?
Alors, je suis responsable du centre de documentation du musée départemental Arles Antiques. Je suis historienne de l'art et spécialiste du bijou ancien, Antiquité Moyen-Âge.
Oui, d'où j'anticipe sur une mission future, d'où votre intérêt et votre intérêt partagé pour les vitrines sur les bijoux, c'était magnifique, mais je n'en parle pas tout de suite. Et à côté, donc, nous avons...
Émilie Tabé, je suis bibliothécaire, je suis au centre de documentation depuis 2 ans, et j'y apporte plutôt une expertise autour de la bibliothéconomie, le traitement des collections, et en plus, on bagage autour des animations proposées par le centre de documentation.
Oui, et il y en a énormément, hein, parce que donc aujourd'hui, pour dire la vérité, nous avons eu la chance d'avoir une visite guidée, personnalisée, extraordinaire, et j'espère que les deux émissions qu'on va y consacrer inciteront tout le monde à venir. Alors déjà, on va se débarrasser de ce problème. Si les auditeurs ont envie de venir, que doivent-ils faire ?
Eh bien, ils doivent simplement prendre rendez-vous, soit auprès de moi, soit auprès d'Émilie, ou auprès de l'accueil du musée. Ils demandent le centre de documentation et bookent un créneau.
Ça peut se faire sur le site, par exemple, pour des gens qui viennent de Nîmes et qui ne seraient pas sur place, ou il faut venir sur place?
Non, ça peut se faire sur le site, mais le site, vous aurez juste le numéro de téléphone,
voilà,
ou le mail.
D'accord. Donc, en tout cas, une manière de communiquer facilement. Et donc, bien entendu, on ne peut pas lâcher le public dans un endroit aussi merveilleux, où il y a un fond énorme. Il y a combien de livres à peu près ?
On a plus de 20 000 ouvrages sur la romanité. On couvre de la préhistoire jusqu'au XIIe siècle. On est spécialisé plutôt dans le sud-est de la France. Nîmes aussi en fait partie. Et oui, c'est pour ça qu'on demande d'être sur rendez-vous. Comme ça, ça nous permet de guider tout simplement le visiteur ou le lecteur au sein des collections.
Alors ça peut être quelqu'un qui a un objet de travail, d'étude, et qui donc vous le précisera à l'avance de manière à ce que vous, vous puissiez anticiper sur ses demandes.
Exactement, on accompagne chaque chercheur dans ses recherches, parce que notre fond, des fois, peut être un peu complexe à manipuler. Si la personne vient de façon très spontanée, eh bien, on l'accompagne, on l'accueille, on s'adapte vraiment. Si la personne veut être en autonomie, découvrir seule, ou si elle veut être accompagnée, on fait.
Alors, c'est très bien classé, c'est spacieux. On a fenêtre ouverte vraiment sur cet ancien cirque romain sur lequel le musée a été bâti, en tout cas sur le bout de cet emplacement de cirque romain. Il y a un environnement merveilleux, c'est clair, c'est calme, et on peut effectivement consulter tous ces ouvrages, un fond énorme des belles lettres, par exemple.
Oui, ben ça je vais laisser Émilie en parler.
Alors ce fond est assez conséquent effectivement, puisqu'il concerne toutes les collections des belles lettres, c'est-à-dire les ouvrages bilingues, soit grec-français, soit latin-français, et aussi les textes des premiers chrétiens.
Alors ça fait, quand on entre, c'est impressionnant, hein, ça fait un nombre de livres incalculable.
Ça fait beaucoup de livres, mais c'est un fond très très précieux pour nous, parce qu'il nous sert également pour créer nos animations, en particulier notre animation signature, les lectures déambulatoires, qui nous permettent donc de contextualiser une œuvre du musée et d'y associer un texte latin ou grec que nous avons choisi.
Alors, puisque vous en parlez, on peut peut-être déjà annoncer la date du 30 avril, je crois, où il va se passer quelque chose qu'il ne faut surtout pas rater. Je vous laisse l'expliquer.
Alors, le 30 avril, nous serons accompagnés par une musicothérapeute qui s'appelle Capucine Desmar. et qui sera accompagné aussi de ces bols tibétains, de gongs. Voilà, ce sera un conte en musique que nous allons créer. Nous allons faire parler les œuvres à la première personne et en même temps, le public pourra être assis, voire presque allongé, puisque nous allons installer des chiliennes dans le musée pour créer un moment très zen, très particulier, avec une ambiance musicale, sonore, et aussi avec de la lecture et des contes.
Alors ça, c'est formidable, et ça sera en soirée, je crois.
Oui, ce sera le mercredi 30 avril à 18h30 dans les collections du musée.
Alors, il faut réserver ou on peut venir librement ?
Il vaut mieux réserver, comme ça on sait le nombre de chiliennes qu'on peut installer dans les collections.
Et d'accord.
Ça se fait très facilement, soit via le site, le formulaire, soit en passant un coup de téléphone. C'est très facile et c'est gratuit.
Alors, le musée bleu est décidément plein de beauté, des œuvres dont on va un petit peu parler, et puis toute cette manière de les contextualiser, de les rendre vivantes, de les faire parler. Et alors, vous nous avez toutes les deux proposé, je l'ai dit, une visite merveilleuse accompagnée de textes, c'est-à-dire il y avait un va-et-vient entre les œuvres que nous voyons et des textes, un texte antique, un texte moderne, et qui avait un rapport avec ceci. Donc, vous êtes coutumière de pratiquer ces lectures.
Oui, depuis 2 ans, depuis que le centre de documentation a repris une seconde vie, on a décidé, entre moi, de faire le côté historienne de l'art et le côté d'Émilie, le côté lecture, et ben de nous compléter, de nous associer pour faire un va-et-vient entre les œuvres et les textes antiques, et pour en fait changer de regard et présenter les œuvres de façon différente.
Ah oui, ça c'est vraiment réussi. Hein. Et alors vous dites depuis 2 ans, mais vous êtes là depuis bien plus longtemps.
C'est vrai, moi je suis là depuis 8 ans presque, déjà mais j'étais dans un autre service. Et donc c'est depuis 2 ans que j'ai repris les rênes du centre de documentation.
D'accord. Et vous accomplissez visiblement un énorme travail dont on profite abondamment. Et qu'est-ce que vous faisiez avant ? Alors d'abord, déjà, dans quel service vous étiez auparavant ?
J'étais au service documentation, j'étais au service des documentalistes, et j'ai décidé en fait de partir de ce service avec mes missions de documentation pour reprendre les rênes de l'ancienne bibliothèque, qui avait plus de personnes, plus d'agents. Et j'ai décidé de créer un centre avec un pied dans le musée, dans le côté conservation, restauration des collections riches et variées, des ouvrages du XVIIe siècle, des photos, des plaques de verre fin XIXe, début XXe, et de créer aussi un pied dans le côté bibliothèque, avec beaucoup plus d'événements, avec une ouverture sur tous les publics et tous les curieux.
Et alors, quel est votre cursus ? On remonte encore dans le temps. Avant d'être ici à Arles, où étiez-vous ?
Alors, je suis une ancienne de l'école du Louvre, où j'ai étudié pendant 5 ans. Je me suis spécialisée en Moyen-Âge et en bijoux. Évidemment, puisque je suis également gémologue. J'ai également fait du droit, parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas travailler dans le monde des ventes aux enchères. Mais en fait, parler d'argent, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis revenue à mes premières amours, au musée et à l'enseignement. Donc, j'ai enseigné à l'école du Louvre les objets d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance pendant 4 ans. Et ensuite, je suis venue sur Arles.
Oui, ben ça se sent, hein, tout ce bagage, il est là, on vous écoute parler, semble-t-il, facilement, mais avec un énorme bagage, quoi. C'est vraiment fascinant. Et quand vous étiez petite, vous êtes tombée dans la marmite toute petite ou pas ?
Oui, je suis née avec l'envie d'être égyptologue. C'est-à-dire que je me souviens pas tellement cette fixation était lointaine pour moi. Depuis que je suis bébé, je demandais des histoires sur l'Égypte, c'était tout sur l'Égypte. Quand j'étais enfant, mes parents étaient pas spécialement portés sur l'histoire et ou l'Antiquité, et je demandais à aller faire des expos toute seule. Ma mère me laissait à l'entrée, je faisais les allers-retours jusqu'à l'épuisement, parce que j'étais tellement fascinée par ce monde-là, et ensuite j'ai demandé à mes professeurs qu'est-ce que je dois faire pour être égyptologue, et on m'a dit l'école du Louvre, donc c'est ce que j'ai fait.
Alors, vous aviez des origines parisiennes au début, voilà, donc vous avez fait l'école du Louvre, et puis ensuite vous êtes descendue dans le sud.
Oui, parce que ma famille paternelle est de Marseille, et donc j'avais souhaité en fait m'occuper de ma grand-mère, qui vivait à Marseille, et donc c'est vrai que c'était tout à côté, donc tout indiqué.
Bon, et vous n'avez pas regretté de descendre dans le Midi et ce choix du musée bleu, du musée d'Arles?
Non, j'ai pas regretté parce que le musée bleu est un musée qui a une richesse de collection juste incroyable. Par contre, c'est vrai, ce qui me manquait quand je suis arrivée, c'était l'enseignement. Le lien avec le public, avec les visiteurs. Et c'est vrai qu'en vous proposant ces visites, en vous proposant ces lectures, ça me permet voilà, de mettre en place ce qui me manquait et d'être parfaitement bien.
Oui, alors vous faites quelque chose de tout à fait complet. Et vous, où étiez-vous avant de venir dans ce musée bleu?
Alors moi, j'étais bibliothécaire dans des bibliothèques municipales. J'ai travaillé 5 ans dans le secteur jeunesse, 5 ans dans le secteur adulte, et ensuite je travaillais pour une bibliothèque départementale, donc je n'avais plus du tout de public. Je recevais uniquement un public de bibliothécaires. Et c'est rigolo parce que c'est un peu ce qui me manquait aussi dans mon métier, c'est ce contact et avec les gens. Et je me retrouve tout à fait dans ce que tu disais, Aliénor, sur voilà, cette façon de transmettre quelque chose qui nous plaît. Et de pouvoir le rendre à un public, ça me plaît particulièrement.
Et alors c'est vraiment complet votre travail, votre métier, parce que donc il y a ces contacts, il y a ces connaissances, et puis il y a ce culte du livre-objet, puisque tout à l'heure vous nous avez montré de très vieux livres, et Aliénor, vous m'avez confié que à la saison où vous êtes plus au calme dans le centre de documentation, et ben vous passez votre temps à les entretenir.
Oui, en fait, c'est vrai que quand il y a 2 ans, on a ouvert les portes du centre de documentation et de ses réserves, c'était beaucoup de cartons, beaucoup de sacs plastiques, et on a décidé de tout ouvrir, de tout regarder. Et à l'intérieur, pour nous, en tout cas, on a trouvé des trésors, des livres du XVIIe siècle, mais qui étaient pas du tout entretenus, dont la couverture en cuir était lacérée, vous avez pu le voir, ou alors même sans couverture en cuir, juste avec le cartonnage de la reliure à vif. Et j'ai décidé de, un peu comme mes bébés, de m'en occuper, de demander à des relieurs d'art et restaurateurs de, eh bien, tout simplement leur redonner vie pour qu'on puisse les consulter, pour qu'on puisse les lire. Et c'est vrai que le cuir a besoin d'être entretenu.
Oui, parce que c'est une matière vivante, hein.
Exactement, qui est très sensible à l'hygrométrie, à la lumière et donc aussi à l'humidité. Et ils ont besoin d'être entretenus, qu'on prenne soin d'eux. Et donc tous les étés, on prend soin d'eux et on les cire à la cire d'abeille.
Et comme ça, on peut, nous, public, accéder à ces objets très émouvants que sont ces livres. Et je disais à Aliénor que déjà dans l'Antiquité, avec Martial, qui est mon poète préféré du moment, eh bien, il y a ce goût pour le livre papier, le livre parchemin, et aussi ses dérives, c'est-à-dire que quand le livre n'est pas bon, on réutilise le papier pour en faire un emballage d'alimentation, ce qui est beaucoup moins noble, mais qui permet de resservir. Donc là, on n'en est justement pas là, puisque là, le livre que vous nous avez montré tout à l'heure et dont on reparlera dans la suite de l'émission, eh bien, vous l'avez mis sur un tissu de velours pour le protéger, vous avez mis des gants pour le manipuler, et là, on est dans l'univers du nom de la rose, presque. Avec ce mystère, ce culte du livre, mais en même temps, cette envie de partager. Parce que justement, dans Le Nom de la Rose, on garde tout pour soi, on ne veut pas partager sa connaissance. Et vous, c'est exactement l'inverse. Vous avez envie de partager.
Oui, en fait, ça a été un petit combat aussi pour nous, parce qu'on est dans un musée d'archéologie. Donc ici, ce qui est considéré comme une œuvre, bah, ce sont les pièces romaines qui ont 2000 ans. Alors un livre du XVIIe siècle, personnellement, enfin mes collègues, finalement c'était pas important pour eux, et c'est pour ça que c'était un peu mon cheval de bataille. Finalement de dire que non, c'est une œuvre qui on doit entre guillemets le respect, et on doit prendre soin de lui, d'où le fait qu'on vous le présente sur des futons, enroulés, voilà, pour le protéger et pour assurer une conservation et un conditionnement aussi qui soit pérenne pour les générations à venir.
Ben, merci beaucoup, et puis bon anniversaire à ce musée bleu, hein, parce que il a quel âge?
On a 30 ans en 2025, le 25 mars 2025 très exactement, on a 30 ans. Et donc c'est une année très particulière pour le musée, il va y avoir une programmation associée à nos 30 ans avec des spectacles, du théâtre. Il va y avoir notre exposition du 7 juillet au 3 novembre 2025 qui va fêter l'institution et 30 ans de vie consacrée au patrimoine.
Oui, une belle vie, et puis tout en devenir, avec plein de projets. Il y a même un concours de poésie que vous organisez.
Oui, dans le cadre du Printemps des Poètes, chaque année il y a une thématique particulière. L'an dernier c'était sur la grâce, nous avions demandé à nos collègues de nous partager un moment de grâce dans leur métier. Et on les a montés, on les a mis en musique, on les a proposés au public dans le cadre de siestes musicales. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site du musée ou sur la chaîne YouTube. Et cette année, le concours porte sur la poésie volcanique. Donc nous avons choisi 4 œuvres du musée qui pour nous avaient un lien avec ce côté volcanique. Et nous vous proposons, que vous soyez novice ou expérimenté dans l'écriture, de nous envoyer un poème sous n'importe quelle
forme. Alors par mail
Par mail, ou si vous passez dans le coin et que vous avez envie de nous déposer en main propre, ce sera volontiers. Mais en tout cas, c'est très facile d'y participer, soit par mail, soit en venant au musée, déposer vos propositions. Et il y aura une restitution publique le samedi 15 mars à 17h au musée. Nous lirons les textes et nous verrons lesquels ont
suscité l'émotion.
Ouais,
d'accord. Donc ça, c'est le 15 mars. Et le délai pour envoyer ces poèmes,
vous avez jusqu'au 13 mars.
13 mars. Bon, ça laisse du temps.
Oui.
Ben, merci infiniment. Je me suis régalée à tous les sens du terme. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Ces quelques notes célestes de musique, de harpe antique, nous replongeons avec Aliénor et Émilie au cœur de leur centre de documentation qui se trouve donc au-dessus, à l'étage du musée bleu. Et elles vont essayer de nous faire faire le tour de toutes les ressources incroyables de cet endroit, bien sûr des livres et des livres qu'il va falloir protéger, qu'il va falloir améliorer, réparer, entretenir, mais aussi des objets qui vont nous livrer leurs secrets grâce à des images, des photos, des radios qui sont effectuées dans cet endroit. Donc, il n'est pas simplement un puits de documentation, mais qui est aussi un endroit où curieux, chercheurs, lecteurs pourront accéder aux collections, bien sûr, à la salle de lecture, bien sûr, mais aussi avoir connaissance de toutes ces ressources autour de ce qu'on appelle un livre. Donc, on va les écouter tour à tour, égrener toutes ces richesses et parler ensuite avec beaucoup de savoir-faire, de savoir de la muséographie, de l'histoire de ce musée bleu qui a été conçu par l'architecte Henri Siriani, en tout cas c'est son nom qui a été francisé puisque c'est un architecte franco-péruvien et d'origine italienne qui a donc créé ce musée dont nous allons d'ici peu fêter les 30 ans. Elle nous explique donc comment ce musée a été conçu et dans l'émission qui suivra, la semaine suivante, vous en apprendrez encore un petit peu plus. Écoutez bien.
À quasi toute la collection des belles-lettres, pour tout ce qui est texte grec, latin et premier chrétien. Mais pas que. On a également tout ce qui est revue. On a évidemment des revues à peu près dans toutes les langues, mais notamment français, anglais, allemand, italien, espagnol. On a quelques revues, ça peut être en russe, en arabe également. Je vais vous inviter à aller dans la salle de lecture, vous allez pouvoir vous installer. De documentation, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas qu'une simple bibliothèque, même si c'est vrai qu'on est entouré de livres, je l'ai dit, il y a plus de 20 000 ouvrages, mais pas que. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette présentation dans ce lieu, déjà que vous puissiez le connaître, si vous avez envie de revenir nous voir pour feuilleter des ouvrages. Trouver du calme, c'est toujours un espace de calme pour qu'on puisse écrire, réfléchir tranquillement. Et c'était pour vous montrer la variété et la diversité de tout ce qu'on peut conserver. Et là, je vais laisser Émilie prendre la parole.
Alors, moi je suis Émilie Tabé. Je viens de la lecture publique, j'étais bibliothécaire dans une bibliothèque publique. Donc, ce n'est absolument pas du tout le même métier que documentaliste dans un musée. Par contre, ça m'a permis de pouvoir amener tout mon savoir-faire sur les animations, tout ce qui est action culturelle. Et toujours dans un souci d'ouverture du lieu, d'ouverture des collections, mise en valeur de toutes ces collections, on a donc décidé de mettre en place différentes actions de médiation. Notre action un peu signature, notre action phare, ce sont les lectures déambulatoires dans les collections, où devant une œuvre, on arrive à trouver le texte antique qui correspond, et ça donne en fait une autre valeur, donc on met en avant tout notre fond belles-lettres, plus les collections du musée. On s'appuie aussi sur tous les dispositifs nationaux qui existent, on est présent sur les nuits de la lecture, et actuellement sur le printemps des poètes. Je ne sais pas si parmi vous il y a des âmes de poètes. Vous pouvez aussi entretenir cette petite flamèche, qui n'est encore qu'une flamèche, pour la faire justement évoluer. Et en plus, cette année, la thématique, c'est la poésie volcanique. Donc, il y aura 4 œuvres dans le musée que nous avons trouvées volcaniques et sur lesquelles vous pouvez nous envoyer votre poésie à l'adresse mail de l'Aliénor, voilà, pour que ça soit utilisé. Ça s'appelle « Une œuvre, un poème ». Et à la fin, vous allez avoir la possibilité de lire votre poème en public et éventuellement de gagner... Des ouvrages si votre poème a été le plus convaincant pour nous. Pour lancer aussi notre centre de documentation, nous avons organisé un escape game donc dans cet espace. Nous avons fait également des podcasts, nous créons aussi des podcasts. Donc nous mettons en avant notre fond de livres anciens. On vous en a sorti ici quelques-uns. C'était surtout pour vous montrer donc ce travail de livres anciens qui est en réserve et qui n'est absolument pas connu. Donc encore une nouvelle fois, mise en valeur des collections et mise en valeur du travail de nos restaurateurs, parce que nous avons la chance de travailler avec des restaurateurs professionnels qui sont sur Aubagne.
Enroulé dans un papier journal des années 30, et à l'endroit, ce serait mieux. Donc c'est des plaques à gélatino bromure d'argent, hein, donc c'est la technique. Donc on a des plaques de verre 20e siècle, avec ensuite des photos. Alors, beaucoup de choses, on ne sait pas ce que c'est, donc là on pense que c'est des avions. En fait, c'est des avions exposition universelle. C'est des choses qu'on a récupérées, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quelle était leur histoire. Alors, on a une petite piste, parce qu'avant les musées d'Arles étaient tous fédérés sous la houlette d'un seul conservateur, et notamment un de nos conservateurs a été Jacques Latour, son père Alfred Latour faisait énormément de photos, il y a une exposition en ce moment au musée Réattu, donc le musée des Beaux-Arts d'Arles justement là-dessus, peut-être du coup des photos d'Alfred ou du fils Jacques Latour, c'est possible. Voilà, ce sera à nous de faire des recherches. Là, je vous ai mis un clin d'œil, désolé pour le petit format. C'est la présentation des œuvres telles qu'elles étaient dans l'ancienne chapelle Sainte-Anne, puisque avant d'être au musée, une personne m'a demandé quand on était ouvert. On était ouvert le 25 mars 1995, donc cette année on a 30 ans. Mais avant, les œuvres étaient dispersées dans Arles, dans des anciennes églises désaffectées. Donc au niveau de la conservation, évidemment, c'était pas top. Et au niveau même de la présentation, c'était une présentation, moi, que j'appelle 19e-iste. Donc c'est-à-dire très chargée, assez ancienne, pas du tout didactique. Et pour faire écho à cette présentation de la chapelle Sainte-Anne, vous avez ici des cartes postales qui représentent telles que les œuvres étaient présentées à ce moment-là, avant les années 30. Donc vous voyez, c'est de l'accumulation, il n'y a aucun discours pédagogique ou didactique, et le but c'était du lapidaire. Parce qu'évidemment, tout ce qui était céramique, bronze, etc., dans une église désaffectée, c'est très humide, on ne peut pas l'exposer. En plus de tout cela, on a également les dossiers d'œuvres. Alors les dossiers d'œuvres, c'est chaque œuvre. Quand elle rentre dans un musée, on lui ouvre un carnet de santé avec énormément d'informations dessus, que ce soit des valeurs d'assurance, que ce soit des constats d'état, donc des descriptions extrêmement précises de son œuvre, de cette œuvre. Et on va également faire des radios. Alors pourquoi on fait des radios sur les œuvres? C'est pour voir les éléments métalliques à l'intérieur. Je vous en prie. Ici, c'est une épée qui était dans son fourreau. On va la croiser dans les collections. Et on voulait absolument savoir si la lame était bien conservée et si on pouvait en fait séparer la lame du fourreau, donc la sortir du fourreau, pour la présenter au public. Là, grâce à la radio, on se rend compte que la lame, elle a vraiment été très abîmée. C'est un glaive dans son fourreau qui provient du Rhône. Donc finalement, voilà, tout ce qui est métal et eau, ça fait pas bon ménage, donc on voit que ça vaut pas le coup de tenter une restauration qui est un peu compliquée et difficile pour présenter une lame qui est vraiment pas belle. Donc voilà.
Vous diriez qu'elle a été cassée, non?
Alors non, là en fait ce sont des petits éléments métalliques en plus qui tiennent les deux parties du fourreau.
Ah d'accord, parce qu'elle est dans le fourreau.
Eh oui, là la lame est dans le fourreau et vous avez le fourreau ici.
J'ai l'impression qu'elle est en
fait. On va les ranger. Hein.
La première pierre en 88, dernière pierre finie d'inauguration en 95. Donc là, on est dans les années 80-90. Henri Seriani, il a gagné un concours d'architecture pour construire ce bâtiment. C'est un des derniers architectes qui utilise énormément le dessin. Donc c'était un très grand dessinateur. Et d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à notre future exposition en juillet, qui sera sur notre bâtiment, la naissance de notre institution. On fera le point sur 30 ans de vie dédiée au patrimoine. Et on va exposer avec la Cité de l'Architecture de Paris d'une soixantaine de dessins d'Henri Seriani qui va expliquer tout son processus créatif. Et comme on est des dessins ici, pour vous dire qu'on conserve un tout petit peu d'art graphique, donc là un dessin du théâtre antique de 1865, quelques éléments qui nous sont donnés. On a des donateurs actuellement qui sont très attachés au patrimoine arlésien et qui nous donnent tout ce qu'ils peuvent chiner, glaner, et que ce soit sur le patrimoine arlésien, donc pas forcément que sur l'Antiquité et pas forcément que sur notre bâtiment ou la presqu'île du cirque romain. On conserve, moi j'appelle ça des œuvres qui parlent vraiment de notre patrimoine façon au sens large. Donc voilà, ça c'est pour les trésors, on va dire, du centre de documentation. Parce que comme on a une équipe toute petite, vous voyez, on est deux, eh bien on doit juste s'assurer d'être présent pendant que vous êtes en consultation. C'est tout.
D'accord.
Tout simplement. Et si vous avez des recherches à faire, j'ai expliqué à une des personnes du groupe, on a des personnes qui sont aussi auto-entrepreneurs et qui viennent parce qu'ils ont un projet très particulier. Là, j'ai expliqué un brunch romain, par exemple. Donc la dame, elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle pouvait mettre comme ingrédient dans son brunch romain. Vous nous dites en amont la recherche. Nous, on fait déjà quelques petits repérages et on vous aide aussi dans la recherche. Parce que des fois, notre fonds, il a sa propre logique, donc c'est pas évident. Enfin, on vous laisse pas tout seul en liberté dans le fond, sauf si vous vous débrouillez très bien. Donc non, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'être là.
Par exemple, pour l'habillage en romain, vous avez des documents.
Oui, sur la parure et le vêtement.
La parure et le vêtement.
Oui, oui.
Nous quittons Aliénor et Émilie, que nous retrouverons la semaine prochaine, lorsqu'elles nous emmèneront en bas, dans le Musée Bleu, dans une visite guidée qu'elles nous ont concoctée exprès, avec des commentaires sur des objets et en regard, parfois, des lectures de textes. Nous allons nous régaler. Au revoir!